France Inter, il est 5h12 et voici les chroniques littorales. Le mardi, vous le savez, nous parcourons le monde à travers les mers et les océans. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Mathilde Munoz.
Et nous voyageons dans le temps également, aujourd'hui en particulier avec un découvreur qui fit une circumnavigation.
Bougainville, le navigateur du XVIIIe siècle. Nous découvrons ses aventures sous la plume de l'écrivain de marine Dominique Lebrun pour deux ouvrages sur Bougainville. On commence par le premier qui est l'histoire secrète du premier tour du monde scientifique. Et on apprend par exemple que dans les livres de bord de ses officiers, bien quand ils sont arrivés à Tahiti, ça s'est pas trop mal passé, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était très élégant quand même. Donc Dominique Lebrun, qui est l'invité? Bougainville ne fut pas le seul navigateur donc à faire le tour du monde, d'autres l'avaient précédé. Mais attention, il fut le premier à le faire. Faire des fins scientifiques.
C'est tout à fait ça. Alors, l'histoire officielle veut que Bougainville ait fait le premier tour du monde sous pavillon du roi de France, qui est une façon de contourner l'obstacle. En vérité, les commerçants malouins, depuis longtemps, faisaient le tour du monde avec le commerce interlope, donc la contrebande avec l'empire espagnol d'Amérique du Sud. Ils allaient en Amérique du Sud apporter des marchandises européennes contre de l'or et de l'argent. Ils traversaient le Pacifique pour aller en Chine, le négocier contre ivoire, soieries, épices, revenaient par les îles aux épices et revenaient évidemment à Saint-Malo en ayant fait le tour du monde, mais de façon tout à fait clandestine. Donc lorsque Bougainville fait enfin un tour du monde officiel sous pavillon du roi de France, ça devient le premier tour du monde.
Mais attention, tour du monde qui lui a été demandé par le roi de France.
Alors, c'est une demande du roi de France et qui fait suite à une vieille histoire. Bougainville a colonisé les îles Malouines, qui étaient désertes à l'époque, pour y installer un nouveau territoire pour les Acadiens chassés du Canada. Mais les Espagnols ont dit « Attention, c'est chez nous, le roi d'Espagne est un Bourbon, Louis XV est un Bourbon. » Donc, au nom du pacte des familles, on demande à M. Bougainville d'abandonner son projet où il sera largement récompensé par les Espagnols. Ça, il s'en sortira très bien. Mais pour que ce qui est une abdication quand même un peu honteuse prenne un certain panache, on décide qu'après avoir rendu les îles espagnoles, il continuera par un tour du monde. Et c'est là où Bougainville fait quelque chose de merveilleux. Il embarque trois personnes qui sont des scientifiques. Un cartographe, un astronome et surtout le fameux commerçant, le botaniste. D'où le Bougainvillier un jour.
Dans votre ouvrage paru chez Omnibus, c'est surtout Bougainville, l'histoire secrète.
Oui, secrète parce que qui sait que Bougainville était l'aide de camp de Montcalm au Canada? Il a combattu rudement, un vrai baroudeur, mais qu'il a été le premier ethnographe des Indiens du Canada, des Amérindiens. Il a ramené des notes extraordinaires. Et puis ensuite, lorsque l'Angleterre nous prend le Canada, il décide de créer, là où il va le trouver, c'est-à-dire aux îles Malouines, une nouvelle terre où les Acadiens pourront s'installer. Donc ça, c'est la partie peu connue, que l'on croit connaître, mais qui mérite qu'on y retourne, parce que j'y ai trouvé, à ajouter, les journaux de certains de ses officiers.
On rappelle les noms des navires avec Bougainville dans sa circulation.
La Boudeuse. Alors la Boudeuse, c'est très joli. La frégate La Boudeuse et la flûte L'Étoile. On dirait en fait que ces bateaux apportaient leur nom au titre d'un roman, puisque donc le récit du voyage, qui se lit merveilleusement bien aujourd'hui, c'est plein de poésie. L'écriture reste assez moderne malgré tout. Et donc La Boudeuse et L'Étoile, c'est quand même magnifique.
Quelle fut la seconde vie de Bougainville?
Alors, la fin de sa carrière, quand même, là où ça devient passionnant, c'est qu'il va, donc, connaître Louis XVI, la Révolution française, être à deux doigts de se faire guillotiner sous la Terreur, ensuite être récupéré par l'Empire, où il devient donc baron d'Empire, il devient sénateur représentant la marine, avec les traitements qui vont avec, il a tous les honneurs, et il va finir sa vie au sommet du sommet, avec des choses étonnantes, quand on pense que, par exemple, il a présidé la commission qui était chargée de savoir si le sous-marin, présenté par Monsieur Fulton, qui était un Américain, était une arme utilisable par la marine ou non. La commission a décidé que non, ce n'était une arme déloyale.
Dominique Lebrun, deux ouvrages sur Bougainville. Bougainville, l'histoire secrète, c'est une vraie aventure chez Omnibus. Et un autre ouvrage, toujours Bougainville, toujours sous votre plume, chez Talandier. Sauf que là, c'est plutôt un album.
C'est un album petit format, qui est bilingue en plus. Là, en revanche, c'est illustré. On a fait un gros travail d'iconographie. On a notamment, sur une page de garde, un extrait du journal de Bougainville, qui était un document qui était dans la famille des descendants que personne n'avait vu, que je suis très très fier d'avoir là.
Voilà Mathilde Bougainville, l'histoire secrète du premier tour du monde scientifique chez Omnibus. Et Bougainville, petit album, petit format chez Talandier.
Il en parle bien votre invité, hein, Dominique Lebrun.
Ben Dominique Lebrun, c'est un passionné.
On aurait pu l'écouter encore pendant de longues minutes. Merci beaucoup José-Manuel Lamarque, à demain.
À demain Mathilde.